La mer d'Aral est une mer fermée d'Asie centrale, partagée entre le Kazakhstan au nord et l'Ouzbékistan au sud, qui avec ses 68 000 km² en 1960, était la quatrième surface d'eau salée intérieure au monde. Mais 40 ans plus tard, la mer a perdu la moitié de sa superficie et a même failli disparaître complètement, laissant une région aujourd'hui sinistrée par cette catastrophe écologique. La catastrophe de la mer d'Aral, c'est le sujet sur lequel nous allons revenir avec vous, Marie-Hélène Mandrillon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions environnementales en Russie, au CNRS, CERSEC, le Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européen. Et nous reviendrons donc ensemble sur ce qui a été à l'origine de ce désastre. Mais pour commencer, je vous propose tout de suite d'écouter ce reportage de notre correspondant de RFI en Géorgie, Régis Janté, qui nous emmène sur cette mer d'Aral, autrefois grande comme le Portugal.
La mer d'Aral est une des pires catastrophes écologiques que la planète ait connues. Quelques flaques, grandes comme des lacs, rappellent qu'il y a eu ce qu'on appelait une mer. 50% de sa surface, au moins, ont disparu. La cause ? La décision du pouvoir soviétique, dans les années 1950, de faire de l'Asie centrale une zone de production de coton intensive. Résultat ? Les fleuves Syr-Daria et Amou-Daria n'ont plus apporté leur eau jusqu'à l'Aral. Une décision dont le pouvoir soviétique, avec son idéologie de maître et possesseur de la nature, connaissait à l'avance les terribles conséquences. C'est ce qu'explique à Almaty, l'ancienne capitale kazakh, Mels Elusizov, qui dirige l'ONG Tabirat Nature.
La raison principale de tout cela, c'est que le complexe militaro-industriel avait besoin d'explosifs. À cette époque, c'était la guerre froide. Le monde s'armait. Et pour produire la poudre explosive, il fallait la tirer du coton. C'est cela la raison principale de cette décision. Et le coton, c'est une culture qui demande beaucoup d'eau. Voilà comment a commencé l'exploitation de nos déserts. Bien sûr, les scientifiques, à ce moment-là, ont prédit ce qui arriverait. Mais le monde était alors dans une telle situation politique, dans une telle course à l'armement, qu'ils ont préféré rester sans mer d'Aral que sans armes.
Une explication qui dissimule en partie la responsabilité du pouvoir soviétique. Le coton d'Asie centrale servait d'abord, presque en totalité, à vrai dire, pour l'industrie textile. Mais au Kazakhstan, y compris chez les victimes de la disparition de la mer, ce n'est pas l'Union soviétique que l'on accuse, mais quelques individus qui auraient perverti le système. Aujourd'hui, au fond du port d'Aral, où les gamins venaient piquer une tête il y a 40 ans, la mairie vient d'installer un petit centre de fitness, abrité par une structure légère en plastique. Quelques restes de coques de bateaux gisent au pied des grues rouillées. Ces coques de bateaux, dont les photos ont fait le tour du monde, ont presque disparu, vendues en Chine à la ferraille. Reste la nostalgie de notre ami Marat.
Et tu sais, on entendait le soir comme ça seulement le bruit des grues dans le port. Charger et décharger les biens des bateaux.
La catastrophe de l'Aral touche bien au-delà des habitants de son pourtour. Chaque année, 100 millions de tonnes de sel, de poussière, de pesticides s'envolent et sont transportées partout en Asie centrale, jusque sur les sommets des montagnes, faisant fondre un peu plus vite encore les glaciers. Comme l'explique le défenseur de l'environnement, Mels Elusizov.
Les particules de sel se répandent sur des distances gigantesques. Nos scientifiques ont trouvé du sel de l'Aral sur les sommets glacés des Tian Shan, qui sont à 2500 km de la mer. Ce sel finalement se répand partout dans le monde. C'est une catastrophe. Et je ne parle pas du territoire autour de la mer d'Aral. C'est une tragédie.
La région, notamment le sud de la mer d'Aral en Ouzbékistan, est peu arrosée. Mais quand il l'est, c'est par des pluies ou des neiges salées. Des milliers d'hectares de terres arables deviennent ainsi chaque année impropres à la culture, à jamais sans doute. La mer est morte pour l'essentiel et la mer tue. Le poète et musicien populaire Murat Sidikov n'avait plus qu'à laisser libre cours à sa tristesse quand dans les années 1960, se souvient-il, la mer se retirait d'un mètre par jour. Oh, l'espoir est revenu un peu. D'abord en 1995, grâce à l'initiative de l'ancien maire d'Aral, Alatchibay Baymirzaïev, une digue de 22 km de long, en sable et roseaux, était érigée pour faire revenir la mer, du moins ce qu'on appelle la petite Aral, au nord, côté kazakh. Entreprise désespérée, emportée par la première tempête. Mais en 2006, avec un financement de 87 millions de dollars, versé aux trois quarts par la Banque mondiale et par le gouvernement kazakh pour le reste, une digue de 13 km, quasi indestructible, a été achevée. Et la mer revint sur 10% de son ancienne surface, et Mourad Sidikov a chanté la bonne nouvelle.
Après avoir construit cette digue, le niveau de l'eau dans cette petite mer a atteint 42 mètres selon le système de mesure de la mer Baltique. La salinité de l'eau est tombée de 30 grammes par litre à 10. Le résultat de cela est que si en 2000 il n'y avait que du carrelet, à présent il y a 22 espèces de poissons. Et parmi celles-ci, certaines sont très importantes pour la pêche industrielle, comme la carpe, la brème ou le sandre.
Dans le coffre de vieilles voitures, ou à même le sol posé sur un bout de carton, les marchandes de poissons, sur le marché d'Aral, ont à présent autre chose à proposer que le carrelet, un poisson plat, une sorte de sole qui était la seule espèce à supporter les 30 grammes de sel par litre de la mer jusqu'à il y a 3 ans encore. Les pêcheurs sont presque aux anges. En tout cas, ils savourent le retour de la mer, de l'eau douce des montagnes du Tian Shan, amenée par le cire d'Arya, et donc de la variété des espèces de poissons disparues de l'Aral depuis 20-30 ans. Faire revenir la mer n'est pas tout. La phase 1 de la restauration de la partie nord de l'Aral, la construction de la digue du détroit de Berg, ne s'est pas limitée à faire revenir la mer. C'est tout l'écosystème de la région qu'il s'agit de ressusciter, et notamment les 150 lacs du delta du cire d'Arya. Grâce à l'aménagement de ses berges, l'antique fleuve est comme la deuxième mer nourricière des habitants de l'Aral. Les travaux d'aménagement des berges du cire d'Arya se poursuivent, explication en plein vent au bord du grand fleuve sur un des chantiers de construction.
Vous avez trois passages, vous voyez, fermés par des volets. Ça remplit les lacs. Quand on laisse passer l'eau du Daria, on remplit la mer.
Pour ce pêcheur qui travaille aussi sur le chantier d'aménagement des berges, comme pour Bolat, un collègue du village de Karachalan, qui n'est plus qu'à 20 km de la mer, contre 35 avant, ces lacs où il se rend chaque jour à moto sont vitaux.
Bien sûr, dans les lacs, on n'attrape pas beaucoup de poissons, mais ils sont nécessaires, vous savez, pour nos animaux. On vit grâce à nos vaches, nos chevaux, nos moutons et nos chameaux.
Si la digue du détroit de Berg permet la multiplication des poissons, on est loin cependant du miracle. Le succès est fragile. L'hiver dernier, face à l'augmentation des prix du gaz et la crise énergétique qui menaçait, le Kirghizistan, autre ancienne république soviétique d'Asie centrale qui n'a pour richesse que l'eau de ses hautes montagnes, a retenu l'eau dans son barrage de Tortogul. Aussitôt, la mesure s'est fait sentir dans la région de l'Aral. Certains lacs du delta du cire d'Arya ont baissé. Quant à la digue elle-même, plusieurs spécialistes estiment que si elle améliore la situation dans la petite Aral, elle la détériore en revanche encore un peu plus dans la grande Aral, dans la partie sud, côté Ouzbékistan, en la privant encore un peu plus d'eau. Côté kazakh, le retour de la mer et du poisson donne des ailes aux habitants de la région. Un natif d'Aral, Ouzakbey Aydjanov, ayant fait fortune dans l'immobilier à Almaty, a décidé de rendre à la ville qui l'a vu grandir un peu de sa richesse. Il a construit une nouvelle usine à poissons. Avant de nous donner une interview, il nous montre un petit film publicitaire présentant les nombreuses activités de son groupe Atamekan.
The other enterprise is a fish processing plant called Atamekan in Iran, and is designed to...
L'usine, un bâtiment au style ultra moderne, en verre et avec un toit en forme de vague, ressemble un peu à un ovni au milieu de l'architecture ravagée de la ville datant de l'époque soviétique. Le projet se veut d'abord social, mais aussi économique. Le directeur, Ouzakbey Aydjanov.
L'idée est venue soudainement. Il y a 2 ans, le gouverneur de la région, le gouverneur de Kizilorda à cette époque, m'a invité et il m'a dit « Ok, je sais que vous travaillez dans différents pays, dans diverses régions, en Europe, dans la CEI et même en Afrique. Alors pourquoi ne pas venir dans votre terre natale pour investir ?» Après une longue discussion avec lui, je me suis senti, un peu honteux. C'est vrai. Pourquoi ne penser uniquement qu'à faire de l'argent? Je passe mon temps à créer des entreprises commerciales, à chercher le profit. Je dois faire quelque chose pour ma région. Il m'a dit, vous devez créer une usine de traitement de poissons. J'ai alors répondu, pourquoi faire? Il n'y a même pas de poissons ici. Si, il y a du poisson maintenant. Alors on a commencé à faire des recherches et on a compris que cela pouvait aussi être un projet commercial. Ce n'est pas un projet à très haute rentabilité, c'est vrai. Cela pourrait en tout cas bien devenir profitable. Mais d'abord, c'est un projet social.
Il n'y aurait pas eu d'investissement s'il n'avait été question que de rentabilité. Mais la digue et le retour de la mer ont rendu possible une telle usine et cet investissement de près de 5 millions d'euros. 150 personnes sont employées. Certes, on est très loin des 3000 que l'usine Aral Riprom employait à l'époque où la mer était haute. Mais la modernité de la nouvelle usine, avec son matériel tout en aluminium importé de Corée du Sud, fait du bien à l'âme de ces quelques employés, et notamment de sa directrice de production, Akshabak Batimova, elle qui a connu toutes les entreprises de préparation de poissons d'Aral depuis 30 ans, avec leurs hauts et surtout leurs bas.
Ici, nous vidons les poissons, nous coupons les têtes et les nageoires, et nous préparons des produits que les femmes peuvent directement cuisiner et frire. Avant, à l'usine d'Aral, on n'envoyait que des poissons congelés, pas vidés, pas préparés. Mais maintenant, on traite la matière.
L'espoir revient donc avec le poisson et les emplois, même si chacun sait que ce ne sera jamais comme avant. Néanmoins, Mourad Sidikov, le poète et musicien de l'Aral, chante à qui veut l'entendre sa bonne nouvelle, Suyunche en kazakh, titre de sa chanson qu'un grand poster de propagande gouvernementale reprend dans la petite ville d'Aral, aux maisons blanches, avec leurs volets bleus, comme celles des bords de mer, un peu partout dans le monde.
Marie-Hélène Mandrillon, malgré les efforts, on le voit bien dans ce reportage de Régis Zanté, pour essayer de sauver l'Aral et recréer une activité autour, on voit bien que la région est complètement dévastée.
Oui, c'est difficile de parler d'espoir dans ces conditions parce que la mer n'existe plus, c'est ça la réalité. On peut recréer quelque chose, on peut restaurer un lieu de vie pour des populations qui ont été victimes de l'assèchement, mais la mer n'existe plus, c'est le constat. La catastrophe, elle n'est pas seulement locale, même si la région est très grande, comme l'a montré Régis Janté, mais elle est vraiment régionale, au sens où donnent les économistes. D'ailleurs, les terres noires de l'Ukraine sont affectées par les tempêtes de sable pollué qui arrivent de la mer d'Aral. Donc, on a une catastrophe qui va de l'Himalaya aux frontières de l'Union européenne. Et puis on a surtout 50 millions de personnes qui sont privées du premier des droits humains, qui est celui de l'accès à l'eau potable.
D'où catastrophe économique, sanitaire.
La catastrophe, elle est générale, elle est économique, elle est sociale, elle est sanitaire, elle est démographique. Et la remédiation ne peut pas être technique.
Alors, comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Revenons un petit peu dans le passé. Comment on a pu créer un désastre d'une telle ampleur?
On en est arrivé là en voyant se conjuguer au début du XXe siècle, chez les autorités soviétiques, plusieurs facteurs. Une croyance partagée dans le fait que les ressources naturelles étaient illimitées. C'est pas spécifique, mais le pouvoir bolchevique a assié son pouvoir sur ce mode de développement fondé sur une exploitation à tout prix des ressources, c'est-à-dire au prix de l'homme et au prix du coût de ces ressources. Alors, à cette croyance-là, s'est conjuguée une volonté plus politique de soumettre et l'homme et la nature à des lois qui étaient celles de la dialectique. Et ce qui s'est passé, c'est que des projets de ce type un peu utopique, on en a vu d'autres dans le monde, là, dans la mise en œuvre du pouvoir soviétique, on a eu la possibilité justement de les mettre en application.
Il faut dire qu'on était dans un contexte international un peu particulier à ce moment-là. L'Union soviétique avait besoin de faire une grande démonstration.
Voilà, alors tout au début du régime, l'URSS avait besoin de s'affirmer comme le premier État ouvrier, la forteresse assiégée contre un monde qui était hostile. Par la suite, après la mort de Staline, sous Khrouchtchev, là où les travaux d'irrigation ont été les plus importants et ont produit le plus de dégâts, on était en pleine guerre froide, et ce qu'il fallait, c'était affirmer la supériorité d'un camp sur l'autre, et à l'intérieur du camp soviétique, affirmer la supériorité du modèle soviétique par rapport au modèle chinois de révolution verte qui commençait à s'imposer. Bref, c'est ce qui explique aussi que nous, d'ici, parce qu'il y a eu des voyageurs, vous avez des confrères journalistes qui sont allés là-bas, moi j'ai des collègues chercheurs qui sont allés là-bas, ben, tout le monde a cru ce mirage de travaux d'irrigation grandiose et personne n'a pipé mot.
Donc concrètement, le projet a consisté à détourner, expliquez-nous, à détourner donc les deux grands fleuves, la Moudaria et le Sirdaria qui alimentent la mer d'Aral, pour irriguer le désert, pour faire du coton qui était le...
Voilà. Très concrètement, la mer d'Aral était nourrie par de grands fleuves. Il a été construit des milliers de kilomètres de canaux d'irrigation pour mettre en culture d'une monoculture du coton qui est très avide d'eau. Ce coton était destiné essentiellement à l'exportation, soit à l'intérieur de l'URSS de l'Empire, soit à l'extérieur. Et c'est dommage que notre ami jardinier ne soit plus là au détriment des cultures vivrières de la population, qui, elle, avait ce savoir-faire ancestral d'économiser l'eau, de l'utiliser parcimonieusement. Et là, ce qui a été mis en œuvre, c'est un tout autre développement. C'était vraiment une prise de possession de la nature. Alors le résultat s'est pas fait attendre. Dans un premier temps, oui, l'Ouzbékistan est devenu le premier producteur au monde de coton.
Donc,
et le premier exportateur.
La démonstration a été réussie dans un premier temps.
Bien sûr, bien sûr. Et ça s'est fait au détriment de la santé de la population, qui voyait diminuer ses ressources alimentaires quotidiennes. Ça s'est fait au détriment de la qualité de l'eau, qui peu à peu s'est chargée de métaux lourds et de pesticides. Et ça s'est fait au détriment de la qualité des sols, qui sont devenus, par trop d'irrigation, salinisé et donc stérile pratiquement. Et si vous voulez, l'assèchement de la mer n'est qu'une conséquence lointaine. Ce qui s'est aussi passé, qui est resté très silencieux, c'est le fait que des populations entières étaient privées de toute ressource pour leur survie quotidienne.
Alors, à partir de quand on se rend compte que finalement il y a un gros problème et que c'est pas la réussite exemplaire qu'on a voulu
D'une certaine manière, on s'en rend compte dès le début, parce que moi j'ai retrouvé dans des archives de 1948 l'idée que oui, si on allait développer des canaux d'irrigation, le niveau de la mer d'Aral allait baisser, mais l'eau de la mer d'Aral ne sert à rien, on est dans une logique utilitariste qu'on a connue chez nous aussi. Et donc, les conséquences, elles étaient attendues. C'est pas un accident, c'est quelque chose de délibéré. Ensuite, parmi les scientifiques et les planificateurs qui ont participé à l'élaboration du projet, il y a eu des alertes. il faut être honnête, il y a eu des alertes de géographes de Moscou, de biologistes de Saint-Pétersbourg, de géologues de Novosibirsk, aussi des alertes locales de médecins. Ces alertes n'ont jamais été entendues. Il a fallu attendre l'arrivée de Mikhail Gorbatchev et sa politique de glasnost, la fin du régime.
Alors, quand on se rend compte qu'effectivement on est dans une situation tout à fait compliquée, il y a des premières réponses qui sont données, qui sont aussi désastreuses presque que la catastrophe d'origine.
Voilà, la meilleure preuve que c'est délibéré, c'est qu'on avait même prévu les remèdes. C'est-à-dire que s'il fallait absolument réintroduire de l'eau dans cette région de la mer d'Aral et aussi de la mer Caspienne au passage, ben, on avait une solution qui a été proposée par une autre instance officielle à l'intérieur du régime, qui savait faire des canaux d'irrigation, qui savait faire des canaux de détournement, et qui a dit « mais il n'y a pas de problème ». On va vous construire sur 2000 kilomètres un canal qui va détourner les eaux des rivières de la Russie du Nord et les eaux des fleuves sibériens qui ont la mauvaise idée de couler vers l'océan Arctique, ce qui encore une fois ne sert à rien. Et on va vous construire un canal, donnez-nous les subventions et on va amener cette eau-là dans la région de la mer d'Aral et de la mer Caspienne. Alors, ce projet fou d'ingénieur a trouvé ses financements dans l'Union soviétique de Brejnev. C'est là où est le vrai scandale. Et fort heureusement, on n'a eu qu'un début de construction. Et
ces projets sont arrêtés. Quoi.
La mobilisation de la communauté scientifique soviétique à la fin de la période Brejnev et au tout début de l'arrivée de Gorbatchev a reçu une sanction politique qui a été l'arrêt de ce projet de détournement.
Alors, aujourd'hui, ce désastre écologique a été à l'origine d'une exploitation cotonnière excessive, qui s'est fait à grand renfort de pesticides et de main-d'œuvre forcée. Ça a donné des situations quand même compliquées dans ces nouveaux pays.
Mais le problème, c'est qu'on ne peut même pas parler au passé. Parce que le coton et l'exportation du coton reste une des sources importantes de la corruption de l'ensemble des régimes maintenant indépendants d'Asie centrale. La récolte du coton se fait essentiellement par l'exploitation du travail des enfants. On est à la fin du mois d'octobre, là. Allez en Asie centrale, vous ne verrez pas d'enfants dans les écoles. Les enfants sont occupés à la récolte du coton.
Ils sont réquisitionnés pour aller dans les champs.
Aujourd'hui encore. Donc on ne peut pas parler au passé. Ensuite, il y a encore instrumentalisation des questions d'environnement aujourd'hui, où quand les autorités de ces pays ont des soucis d'image à l'extérieur, le Kazakhstan doit prendre la présidence de l'OSCE et il y a des problèmes de droits de l'homme, il est très commode de remettre en avant un argument écologique en disant « Regardez, je restaure la mer d'Aral, donc je suis vertueux ».
Cette idée de la domination de la nature, est-ce que c'était finalement le propre des communistes de l'ère soviétique ? Parce que le capitalisme s'est aussi construit sur cette idée de domination.
Tout à fait. Non, je crois que c'est la révolution industrielle et les suites de la révolution industrielle dans le monde entier, en Orient comme en Occident et au Sud et encore plus au Nord, se sont toutes accompagnées d'un même type de croyances. La différence dans la conception soviétique, c'est que ça a été mis en œuvre parce qu'il y avait légitimation du pouvoir par la politique, par la science. Le régime se voulait scientifique lui-même et ce scientisme-là a fait des dégâts. Ce qui s'est aussi passé de spécifique, c'est que ce développement forcené, en particulier de la période stalinienne dans les années 30, il s'est fait, selon la formule, à tout prix. C'est-à-dire il n'y avait pas de prix du capital puisqu'il était public et il n'y avait pas de prix de l'homme, de l'être humain, puisque dans d'autres régions, ça s'est fait avec la main-d'œuvre concentrationnaire du goulag. L'Asie centrale a été aussi un grand lieu de goulag, même si on les connaît moins. Et c'est ça qui a fait la spécificité, plus l'absence, mais qui perdure, de séparation des pouvoirs.
Juste en un mot pour finir, la Russie aujourd'hui a tiré les leçons de cette catastrophe ?
Il y a eu une rupture au moment de Gorbatchev. On peut craindre que cette période de rupture soit remise en cause aujourd'hui. D'abord parce qu'on voit ressurgir le projet de détournement des fleuves vers l'Asie centrale. Ce projet est porté par le maire de Moscou, Yuri Loushkov, qui vient d'être réélu, qui a des ressources considérables. Il est vrai qu'il a du mal à mobiliser des soviétiques pour son projet. Mais l'absence, l'héritage soviétique, en particulier d'absence de séparation des pouvoirs entre ceux qui exploitent les ressources naturelles et ceux qui contrôlent l'exploitation de ces dites ressources, cette absence est toujours là.
Merci Marie-Hélène Mandrillon, merci pour cet éclairage sur cette histoire tout à fait extraordinaire et dramatique. C'est pas du vent, vous donne rendez-vous demain pour un autre dossier qui sera consacré aux tortues. À demain donc. Même planète, même heure.